présenter notre conférencier de ce midi, Monsieur Stephen Downs. Juste pour vérifier, Stephen, est-ce que tu m'entends bien?
Oui, j'entends bien, merci.
Très bien. Alors, Stephen Downs travaille pour le Conseil national de recherche du Canada, où il a servi en tant que chercheur principal basé à Moncton au Nouveau-Brunswick depuis 2001. Affilié au groupe des technologies de l'apprentissage et de la collaboration, Institut de technologie de l'information, M. Downs est spécialisé dans les domaines de l'apprentissage en ligne, les nouveaux médias, la pédagogie et la philosophie. M. Downs est peut-être mieux connu pour son bulletin quotidien OL Daily, qui est distribué par Internet, courriel et RSS à des milliers d'abonnés à travers le monde. Je vous invite à vous abonner et à lire les commentaires de Stephen quotidiennement. Ce sont des bijoux, ces petits billets. Il a publié de nombreux articles, à la fois en ligne et sur papier, incluant « The Future of Online Learning » en 1998, « Learning Objects » en 2000, « Resource Profiles » en 2003 et « E-Learning 2.0 » en 2005. Il est un conférencier très en demande, apparaissant à des centaines de manifestations à travers le monde au cours des 15 dernières années. Monsieur Downs ne peut malheureusement pas être présent physiquement avec nous aujourd'hui, mais lorsqu'il nous a proposé d'intervenir à distance, nous nous sommes dit que ce serait tout à fait logique de tenter l'expérience dans le cadre d'un forum comme le nôtre. Il nous entretiendra donc aujourd'hui de chez lui par l'entremise de la plateforme gratuite Google Hangout sur l'apprentissage ouvert et les affaires. Je vous demanderai d'attendre à la fin de la présentation pour poser des questions et lorsque vous voudrez poser des questions, vous devrez vous avancer au micro et regarder la caméra. C'est là que M. Downs se trouve. Stephen, la parole est à toi.
Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai voulu assister en personne, mais ce n'était pas possible. Alors, nous avons le Google Hangout et aussi le VLC Media Player pour la vidéo. Et j'ai beaucoup de choses aujourd'hui. Je voudrais parler aujourd'hui à propos du développement des nouvelles formes d'apprentissage disponibles aux entreprises petites et moyennes. Je voudrais examiner des ressources ouvertes ainsi que les communautés en ligne. Nos entreprises, petites, moyennes et grandes, peuvent utiliser l'Internet afin de réduire leurs coûts et augmenter l'efficacité de l'apprentissage pour leurs employés. Habituellement, j'ai beaucoup de choses ici. Habituellement, quand les entreprises désirent soutenir l'apprentissage de leurs employés, elles organisent une classe ou un événement spécial. Cela demande un investissement important et argent et en temps. D'abord, nous pourrions soulever le besoin d'espace et des installations pour soutenir l'apprentissage en personne. Bien sûr, les espaces sont disponibles pour les grandes entreprises, mais pour les autres, l'espace sera le premier problème. Deuxièmement, il faudrait nécessairement trouver le temps pour assister à un événement éducatif. On devrait réserver au moins une heure chaque fois et probablement plus. Il faudrait se préparer à l'avance et prendre le temps après afin de comprendre complètement le contenu. Troisièmement, pour un certain nombre de classes, il faudrait nécessairement voyager pour assister à une classe ou conférence. Ces voyages ont été réduits après 9-11. Cependant, ils continuent à représenter un certain coût pour les entreprises. Le coût de voyage était spécialement un problème pour les entreprises petites et moyennes. Aux ans se sont écoulés depuis 9-11 Et dans ces temps, plusieurs entreprises ont eu un grand problème avec le coût d'apprentissage. Même si la plupart des grandes entreprises ont commencé à offrir leur formation dans le cours en ligne, mais les autres n'ont pas eu l'opportunité. Un élément majeur dans la résolution de ces problèmes a été l'émergence et le développement de l'apprentissage ouvert. Le terme « apprentissage ouvert » se réfère initialement à les politiques qui permettent l'accès libéral à l'apprentissage, le transfert libéral de crédit et la reconnaissance des acquis. Des institutions telles que Open University de Grande-Bretagne et l'Université Athabasca du Canada ont été créées dans le but d'offrir un accès à l'apprentissage sans barrière d'admission et offrant distance et l'apprentissage en ligne, mais dans un mode formel, avec des objectifs d'apprentissage clairs menant à un certificat ou un diplôme. Mais l'enseignement ouvert au fil du temps est venu d'être associé avec l'apprentissage flexible ou distribué, et en particulier d'être associé avec les caractéristiques suivantes. D'abord, la séparation de l'enseignement et de l'apprenant dans le temps ou le lieu. L'utilisation des didacticiels multimédia interactifs. Une communication bidirectionnelle entre l'enseignant et l'apprenant. Et finalement, processus industrialisé, y compris développement et les équipes de livraison. Le matériel pédagogique utilisé dans des ensembles de cours et de livraison des autres médias a constitué une part importante de l'investissement de l'apprentissage ouvert. Le développement de systèmes de gestion de l'apprentissage, examiné plus loin, conduit à l'élaboration de référentiels de ressources d'apprentissage. Les ensembles de cours seraient construits à partir de mondes réutilisables de contenu numérique d'apprentissage appelé objets d'apprentissage, ou en anglais learning objects. À partir de la fin des années 90, le développement de ces objets d'apprentissage et l'infrastructure associée est devenu essentiel à l'apprentissage en ligne. Ces ressources d'apprentissage, encore après objets d'apprentissage, ont été conçues de manière à être détectables, partageables et réutilisables. Une petite correction. Et réutilisable. Dans l'apprentissage des systèmes de gestion. Des exemples de référentiels d'objets d'apprentissage et l'enseignement en ligne. Des exemples de référentiels d'objets d'apprentissage comprennent la ressource multimédia éducative pour l'apprentissage et l'enseignement en ligne, qui est appelée MERLOT. Le projet Ariadne en Europe. Le dépôt des objets pédagogiques Campus Alberta ou CARIO et Edna Australie, Education Network Australia. J'ai travaillé sur un projet appelé EduSource, qui était notre référentiel d'objets d'apprentissage. Et maintenant, il existe une grande collaboration appelée GLOBE, qui est constituée avec tous les projets, Merlot, Ariadne, etc. Par conséquent, l'apprentissage ouvert est venu au fil du temps à être associé avec la notion de le libre accès ou l'accès ouvert, c'est-à-dire un abaissement de barrières à l'accès à ces matériels éducatifs eux-mêmes. Le concept de libre accès couvre non seulement les objets d'apprentissage, mais aussi toute autre ressource impliquée dans l'éducation, y compris par exemple des livres et des articles de revue. Par définition, accès libre est la littérature numérique en ligne gratuitement et pour la plupart sans restriction des droits d'auteur et des licences. Un certain nombre d'initiatives universitaires et technologiques dégagées en faveur du libre accès. Par exemple, un des premiers défenseurs du libre accès a été la Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, ou SPARC, formé en 1997 par l'Association des bibliothèques de recherche. Aussi, la Budapest Open Access Initiative était la première déclaration importante par les chercheurs à l'appui du libre accès. La première évolution technologique majeure en faveur du libre accès a probablement été l'Initiative Open Access, ou en anglais Open Access Initiative, ou OAI, qui est soutenue par les universités et institutions au niveau mondial. Ce projet décrit un ensemble de spécifications pour la fourniture de contenu ouvert et est composé des méthodes de soumission, d'indexation, la recherche et l'extraction du contenu. L'initiative a été conçue principalement pour les matériaux de recherche, mais son application plus large aux matériaux pédagogiques est évidente. L'OAI a servi de base pour le projet DSpace, fondé au MIT, en anglais MIT, comme un dépôt institutionnel clé en main. De nombreux journaux académiques ont déclaré eux-mêmes d'être accès ouvert et rendant les contenus disponibles gratuitement en ligne, ce qui est connu comme le modèle d'or, ou en permettant aux auteurs d'auto-archiver leur contenu, le modèle vert. L'expansion de l'ouverture accès au cours de la dernière décennie n'a été rien de moins que spectaculaire. Le moteur de recherche académique Bielefeld, ou BASE, indice 36 millions de documents dans 2000 dépôts. Le répertoire des journaux académiques libres liste 8000 titres. L'Internet Archive contient 660 000 films, 100 000 concerts, 1,3 million d'enregistrement audio et 3,5 millions de textes. Je voudrais prendre quelques minutes pour discuter les licences de propriété intellectuelle libre et ouverte. En anglais, nous avons le terme open source et open license, et ce sont associés avec le terme free, comme free culture ou free licensing. Mais en français, nous avons des termes plus précis, tels que gratuit et libre. Les licences ouvertes sont créées plus dans le but d'établir le contenu libre, c'est-à-dire le contenu qu'on pourrait utiliser encore et le contenu qu'on pourrait partager. Le terme licence ouverte peut être utilisé pour se référer à n'importe lequel d'un certain nombre de licences qui soutiennent le libre accès. Outre le lobbying et la fourniture de l'infrastructure technologique, les licences ouvertes sont le principal mécanisme utilisé à l'appui d'un accès ouvert et dans l'apprentissage ouvert généralement. Les licences ouvertes se fondent Les licences ouvertes se fondent sur l'innovation similaire en développement logiciel, la licence source libre. Ces licences étaient fondées à l'origine sur les quatre libertés énoncées par Richard Stallman en 1996. D'abord, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de le modifier comme vous souhaitez. L'accès au code source est une condition requise. La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin. Et finalement, la liberté de distribuer des copies de vos versions modifiées à d'autres. Un élément essentiel n'est pas seulement l'accès au contenu en question, mais aussi la possibilité de partager du contenu ainsi accessible. Dans le domaine du contenu éducatif, la licence la plus fréquemment utilisée pour soutenir le libre accès est Creative Commons. C'est difficile à énoncer en anglais. Sa forme de licence conserve le droit d'auteur, mais permet le libre accès et la distribution avec, comme noté par le site web, certains droits réservés. La licence Creative Commons permet à l'auteur ou du détenteur du droit d'auteur de prévoir toute ou partie des conditions suivantes. Que l'auteur de l'œuvre est indiqué ou attribué. Que le travail soit utilisé non commercialement. Que le travail soit partagé sous la même licence a été accordé. Et finalement, que le travail soit partagé dans son ensemble, sans changement. Nombreux organismes de financement ont commencé à exiger que les documents produits dans le cadre de leur programme soient publiés comme libre accès, généralement sous une licence Creative Commons. ses mandats d'accès ouvert, comme on les appelle, ont été mis en œuvre par des organismes tels que le Wellcome Trust, l'Institut national de la santé des États-Unis, la Banque mondiale et des autres. Beaucoup des ressources offertes par ces dépôts ont été offerts sous licence Creative Commons ou des régimes de licence plus spécifiques tels que la licence Open Content créée par David Wiley en 1998 ou de la licence de documentation libre GNU ou GFDL créé pour soutenir le logiciel open source. Puis, en 2002, MIT a lancé l'initiative OpenCourseWare, offrant un accès ouvert aux ressources pédagogiques sous la licence Creative Commons. Et par 2003, matériaux à partir de 500 cours ont été mis en ligne. À ce jour, OCW, OpenCourseWare, a vu 140 000 visites par 100 millions de visiteurs venus du monde entier. En 2002, l'effort mondial à reconnaître officiellement les ressources éducatives libres a commencé. Le terme « ressources éducatives libres » ou REL a été adopté lors d'un forum mondial chargé d'étudier les REL et le projet de REL de l'UNESCO est actif depuis. Ce projet se concentre sur la recherche dans le développement, la distribution et la durabilité et de le lancement des ressources éducatives libres. Aussi, il a lancé OPAL, une initiative visant à enquêter sur la qualité des REL. Malgré ces initiatives, le nombre de ressources éducatives ouvertes est éclipsé par la quantité de ressources libres disponibles en général. L'Internet Archive, fondé par Brewster Kahle, a recueilli des millions de ressources audio, vidéo et texte. Millions, probablement milliards. De plus, des sites comme Flickr et YouTube contiennent des millions de photos et vidéos. Flickr, par exemple, a plus de 220 millions de photos sur licence Creative Commons. YouTube voit 3 milliards d'heures de vidéos vues par mois. Des services supplémentaires avec des millions de ressources ouvertement licences comprennent Jamendo et CC Mixter pour la musique, Open Clip Art Library, Photopedia et Pixabay pour les images, ainsi que Wikimedia Europeana et Sopin Express pour les autres médias. L'impact de licences ouvertes au cours de la dernière décennie est que des centaines de millions de matériaux d'enseignement de haute qualité ont été mis à la disposition gratuitement à la communauté éducative. Dans certains cas, ces ressources peuvent être réutilisées ou incorporées dans le matériel de cours. ce fut le type d'utilisation envisagé par les développeurs de l'apprentissage dépôt d'objets et ressources éducatives libres. Les ressources deviendraient une partie d'un ensemble de corps. Une licence libre serait utilisée pour permettre les ressources étant adaptées en paquets de corps et de permettre à la revente ou à le partage ou au partage. Mais l'omniprésence croissante de l'accès Internet élude la question. Pourquoi incorporer des matériaux en paquets de du tout? Pourquoi ne pas envoyer à l'étudiant à la ressource? Cela rendrait beaucoup plus de ressources disponibles instantanément. Quelques objections se présentent immédiatement. Des questions sur la persistance, sur la persistance des matériaux a été soulevée, leur qualité et leur provenance, ainsi que les problèmes de confidentialité et de sécurité. Mais le sujet peut être de nouveaux modèles de l'apprentissage en ligne, et ceux-ci ont commencé à apparaître avec l'articulation de e-learning 2.0. Ensuite, le monde de ressources pédagogiques libres est arrivé, mais sont-ils assez pour fournir l'apprentissage nécessaire pour nos entreprises et nos citoyens? Probablement pas. Il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs questions relatives à l'utilisation des ressources pédagogiques libres. Par exemple, on trouve immédiatement le problème concernant comment découvrir des ressources éducatives ouvertes. Afin d'utiliser ces ressources dans un cours, on doit chercher à travers de l'Internet parce qu'il n'existe pas un seul référentiel unique ou une base de données unique et unifiée qui comprend ces ressources. Un deuxième problème concerne les ressources qu'on voudrait utiliser autour des ressources trouvées. Par exemple, avec un livre ou un document, des enseignants habituellement ajoutent des polycopies, fiches de travail, des plans de leçons, des vidéos, des affectations et des tests. Dans un cours traditionnel, même si on utilise des ressources ouvertes, on aurait une véritable galaxie de ressources supplémentaires. Il existe aussi un grand problème avec des licences d'utilisation ouverte comme Creative Commons ou même licences open source telles que GNU Public License ou BSD, Berkeley System Distribution en anglais. Ce n'est pas seulement un problème avec la commercialisation de contenu sous ces licences, c'est aussi, comme David Wiley a dit, il y a un problème concernant la réunion de ressources avec des licences différentes. Il y a aussi des difficultés avec la technologie implique. Par exemple, le format PDF résiste étant combiné avec des autres ressources. On doit avoir assez compétences avec des formats numériques et aussi la fortitude et le temps. Ce n'est pas facile à combiner des ressources de type différent. Ce sont les problèmes pour les auteurs et les enseignants, mais il y a aussi des problèmes pour les étudiants. D'abord, les cours sont présentés comme des cours statiques. comme des cours pris dans une institution traditionnelle. On doit commencer à parler du début. On avance au fur et à mesure de l'évolution du cours. Habituellement, ce n'est pas facile à passer directement au contenu désiré. On doit prendre le cours complètement en avance. On doit entendre la cloche. C'est fini. Aussi, les ressources éducatives ouvertes peuvent être présentées dans un format incompatible au système utilisé par les étudiants. Ce n'est pas présentement un problème trop grand que dans les temps passés, mais le problème persiste. Probablement, le problème du format le plus commun aujourd'hui serait le format Flash, qui n'est pas disponible sur les iPod ou iPad. Mais aussi, nous avons le problème de la largeur de bande pour les conférences en ligne ou les grosses vidéos. Et je pense dans un cas spécialement clair pour cette audience, ceci est le problème de la langue. La ressource désirée peut être disponible seulement dans une langue non parlée. Des étudiants face à un autre problème, la question de la pertinence des ressources. On peut voir ce problème en recherchant simplement sur Google. Chercher pour une ressource à propos de notre sujet aujourd'hui, les ressources éducatives ouvertes. On peut voir une plénitude des ressources, mais pas exactement comme eux besoin. Finalement, pour maintenant, nous avons le problème concernant le design des ressources. Les ressources éducatives sont habituellement préparées pour consommation, comme une vidéo, comme un texte, comme des produits de base. Mais pour être effectif, l'apprentissage doit être conduit dans une manière interactive. On doit devenir un membre d'une communauté, un participant dans une enquête collective. Alors, en somme, on ne peut pas seulement introduire des ressources ouvertes avec une bonne expectation que l'apprentissage arrivera. La valeur de ces ressources est trouvée dans la méthode d'utilisation. Premièrement, d'abord, de passif à actif. Probablement, la leçon plus importante concerne le rôle de l'élève dans l'apprentissage. Où les étudiants étaient autrefois considérés comme les bénéficiaires passifs de l'apprentissage, il est aujourd'hui compris qu'ils doivent être des collaborateurs volontaires dans le processus éducatif. Et où on pensait que l'éducation se composait principalement de faits et de données à se rappeler aujourd'hui, il est entendu que le processus de devenir éduqué est un processus de développement, comme devenir en bonne forme physique. La compréhension de l'erreur de l'élève est importante parce qu'elle informe directement la conception et la méthodologie employée par les ressources pédagogiques libres puis la technologie d'apprentissage en ligne. Quand l'apprentissage est considéré comme le simple transfert d'informations d'une personne à l'autre, l'apprentissage en ligne pourrait être considéré comme autant la présentation de l'information que mettre en place des vidéos, donner aux élèves des textes, et ils vont apprendre. Mais parce que l'apprentissage, c'est plus qu'un simple transfert de contenu, l'apprentissage en ligne doit se composer de quelque chose de plus. Ce que suit définit certains des principaux critères de conception pour un système d'apprentissage en ligne. D'abord, l'apprentissage préalable. Les ressources d'apprentissage doivent être adaptées de fond de l'apprenant et la culture, leur travail, leur langue et leur compréhension du monde. L'histoire et la cohérence sont des éléments importants de l'apprentissage en ligne et les ressources ne peuvent pas présenter sans référence au contexte ni objectif. Leur style d'apprentissage. Les matériaux d'apprentissage pourraient devoir fonctionner en accord avec des préférences de l'individu. Par exemple, apprendre visuellement ou par l'intermédiaire d'expériences concrètes ou en résolvant des problèmes, et ainsi de suite. Donc, le choix et la variété des outils et ressources sont importants. Motivation. L'environnement d'apprentissage pourrait devoir stimuler l'intérêt de l'étudiant et créer un sens d'engagement. Donc, les étudiants doivent avoir un moyen de stimuler la présence sociale et l'interaction avec les autres étudiants, puis même la communauté en général. La formation de savoir. Les étudiants pourraient avoir besoin de les aider de visualiser ou de construire des modèles internes ou des représentations de contenu. Donc, il devrait y avoir un moyen de composer ou de construire ou de créer des objets à partager avec les autres. Communauté. Les étudiants peuvent avoir besoin d'engagement social pour comprendre les aspects implicites et tacites d'une discipline, comme un sentiment de ce qui est pertinent, des moyens d'observation et d'aborder les problèmes et les normes de réussite. Lorsque les technologies d'apprentissage en ligne ont été développées dans les années 90, leurs concepteurs ont essayé à intégrer non seulement la présentation de contenu et du matériel d'apprentissage, mais aussi ces autres aspects de l'expérience d'apprentissage. Par conséquent, ces systèmes n'ont pas consisté seulement de textes lecteurs et lecteurs vidéo. Elles ont consisté des outils supplémentaires qui soutiennent l'engagement actif des étudiants. Ces systèmes, avec des noms comme eTutor, Blackboard et WebCity, ont cherché à encourager la participation des étudiants et à reproduire l'expérience en classe. Ils ont continué à un minimum les forums de discussion, des outils de conférence en ligne, une zone de chat, des exercices en ligne et des jeux questionnaires, des profils personnels, des listes d'activités et les activités prévues impliquant des lectures, des exercices, des interactions et des évaluations. Mais aujourd'hui, ces systèmes traditionnels de gestion de l'apprentissage sont venus plus en plus critiqués précisément par émulant l'expérience en classe, ils n'ont pas suffisamment soutenu l'engagement des élèves et la participation. Les nouveaux modèles d'apprentissage ouverts et distribués que je vais décrire aujourd'hui pourraient être considérés en grande partie comme une tentative de renforcer le rôle actif et participatif dans des étudiants dans l'apprentissage en ligne, et se déplacer au-delà de ce qui est possible dans une salle de classe en ligne, et à considérer le potentiel de la plus large sur l'Internet. Aujourd'hui, cependant, le système de gestion de l'apprentissage reste le modèle dominant de l'apprentissage en ligne. Pratiquement, toutes les institutions ainsi que la plupart des grandes entreprises et les gouvernements utilisent les systèmes de gestion de l'apprentissage pour gérer la formation et de l'éducation. L'apprentissage demain, cependant, signifie quelque chose de très différent. Les apprenants et les fournisseurs d'apprentissage vont repousser les limites de ces systèmes traditionnels dans un effort pour rendre l'apprentissage plus personnalisé et plus actif. Alors, nous avons le deuxième change de formel à l'informel. Cette deuxième tendance majeure ces dernières années porte sur la question de l'apprentissage. Pour la plupart, l'apprentissage est géré officiellement sur les auspices des ministères de l'éducation, collège ou une université, administration ou service de formation en entreprise. L'apprentissage formel implique l'énoncé des objectifs spécifiques d'apprentissage. Un mode de l'enseignement rigoureux, puis une évaluation de compétences conduisant à la certification. Alors, c'était dans les années 90 que les critiques ont commencé à être émises autour du caractère formel et rigide de l'apprentissage des systèmes de gestion. En plus, comme nous avons déjà vu, l'une des questions centrales de l'apprentissage formel tourne autour de son coût. Mais à cause des dépenses, de la conception des cours, l'enseignement formel et de l'évaluation, la réalisation des économies attendues suite à l'apprentissage en ligne n'ont pas réalisé. Une distinction entre l'apprentissage formel et une forme plus bottom-up démocratique de l'apprentissage existe depuis 20 ans. En 2007, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, a défini deux formes supplémentaires de l'apprentissage, en plus de l'apprentissage formel. D'abord, l'apprentissage non formel fait référence à un type d'apprentissage qui peut encore être offert par un établissement d'enseignement, mais qui n'a pas de diplôme ni certification officielle de résultat. L'apprentissage non formel peut donc être la structure et moins rigide des pensées que l'apprentissage formel. Mais aussi, en revanche, l'apprentissage informel n'est pas géré par une institution. C'est plutôt géré par les apprenants. En conséquence, à partir d'un point de vue institutionnel, il peut être considéré comme manquant de toute forme d'organisation ou d'un objectif. Bien sûr, nous verrons que le système est capable d'auto-organisation. L'apprentissage informel, en particulier, a reçu une attention croissante en raison de sa relation à l'apprentissage continu. Il peut être considéré comme l'apprentissage sur la pratique ou l'apprentissage expérimental. En particulier, l'apprentissage se produit par conséquence d'un individuel faisant du sens aux expériences qui se posent au cours de son vie quotidienne au travail. La nouvelle compréhension est enracinée dans la connaissance existante d'une personne, dans ses compétences et les intérêts, et est souvent adaptée pour répondre aux besoins spécifiques d'un participant. Par conséquent, le développement de systèmes informels d'apprentissage gérés par les apprenants eux-mêmes sont souvent moins orientés sur la présentation de l'information ou sur le souvenir des faits. Ces systèmes tendent à se concentrer davantage sur des descriptions de l'expérience, des discussions sur la pratique, la réponse aux demandes d'avis et des conversations de nature plus générale. Ces systèmes sont trouvés en dehors de l'infrastructure d'apprentissage traditionnelle et souvent en dehors des institutions d'enseignement entièrement. L'émergence de l'Internet et plus particulièrement le mouvement libre et open source de logiciels ont montré que les technologies de communication poste à poste peuvent mettre les gens en relation symbiotique. Vous répondez ma question, je vais répondre votre. Par exemple, on peut voir l'auto-organisation des systèmes sociaux qui se pose dans les sites web de discussion tels que Slashdot et Yahoo Groups. Ce sont essentiellement des communautés d'apprentissage organisées autour d'un thème d'intérêt qui pourrait attricoter ou des difficultés d'apprentissage ou l'apiculture. Au lieu d'avoir un professeur, les gens déposent des questions et ils se sont engagés par la communauté. Parfois, une réponse est fournie. Mais aussi souvent, plus de questions sont posées lorsque les gens essaient de combler le contexte ou reformuler la question tout à fait. L'apprentissage informel est souvent perçu moins comme un moyen d'acquérir une certaine somme de connaissances et plus comme un moyen de permettre ou de favoriser une action future. On peut dire que l'apprentissage informel sert un but différent que l'enseignement traditionnel. Les systèmes formels mettent davantage l'accent sur la progression de l'éducation à travers un ensemble de connaissances, peut-être menant à un diplôme ou autre forme de reconnaissance, tandis que l'effort généré dans l'apprentissage informel conduit à une certaine forme de participation communautaire, l'action ou même activisme. Les principes de l'apprentissage informel s'appliquent à toute forme d'environnement où des actions éclairées et efficaces et le résultat souhaité. Et il a la capacité à produire ces actions qui est la mesure de réussite dans l'apprentissage informel et non pas les tests ou les examens. J. Cross, par exemple, écrit à propos de Company Command, communauté d'apprentissage informel développée par deux commandants de compagnies américaines. Leur site web dit « Nous sommes un mouvement populaire et volontaire créé par et pour la profession avec un particulier accent sur commande à niveau de l'entreprise. » Cross-site, quelqu'un de les conseils très précis dans les commentaires sur le site, variant de décoller un mur dans des tentes, apporter la ceinture de sécurité dans les véhicules, etc. Chaque communauté a besoin d'un clubhouse où les membres peuvent discuter des choses et d'en tirer des conclusions, dit-il. L'apprentissage informel est devenu de plus en plus associé avec la notion de communauté en ligne, ou comme on peut dire plus formellement, les communautés de pratique. Un bon exemple est le projet soutenu par le Conseil de recherche australien Uncovering Learning in the Workplace. Ce projet met l'accent sur le rôle de la communauté dans l'apprentissage en ligne et cherchant comment accroître les interactions sociales entre le personnel de différents établissements d'enseignement en Australie. Il souligne l'importance de l'apprentissage quotidien dans les groupes de travail et comment ils sont importants pour le succès de leur travail. Ici, c'est
Monsieur Dawes?
Oui.
Il vous reste 5 minutes.
Oui, merci beaucoup. Je progresse maintenant à e-learning 2.0. Adieu à mon chat. En 2005, le concept de Web 2.0 a d'abord été articulé. Il a représenté un changement dans la façon dont les développeurs regardaient le World Wide Web. Avant, le Web a été pensé comme une collection de documents. Ces documents ont été recueillis et hébergés sur les serveurs Web et les lecteurs seraient navigués d'un document à l'autre à l'autre. Après, le Web a été vu comme un ensemble de données interconnectées. Les internautes ont considéré que comme les utilisateurs des applications, ces applications pourraient avoir un emplacement, mais elles pourraient tirer des données de n'importe où ailleurs sur le Web. Parce que les données ont été reliées entre eux, ces services sont venus à être connus sous le nom de réseaux sociaux plutôt que des simples sites web. Ici, nous pouvons voir avant et après. Avant, nous avons les données et les logiciels pour créer les sites web. Après, nous avons les données et les sites web consistent de les applications. Ici, j'ai un autre chat. Le concept de e-learning 2.0 a été basé sur cette idée. Il a fusionné l'idée d'apprenant la génération net avec le concept de réseaux sociaux et de Web 2.0 développé par Tim O'Reilly. L'idée était que les apprenants peuvent trouver et partager des ressources un avec l'autre et utilisant les réseaux sociaux. Par exemple, Ils pourraient chacun créer leur propre blog et utiliser ces blogs pour mettre un lien vers des photos ou des vidéos qu'ils auraient pu trouver sur le web. Ces blogs ont été enregistrés en tant que flux de données qui pourraient être lus avec l'aide des lecteurs de flux, par exemple Google Reader. Même si une grande partie de l'attention portée à e-learning 2.0 était centrée sur les réseaux sociaux, il est important à comprendre comment le e-learning 2.0 a changé le modèle de données sous-jacentes à l'apprentissage en ligne. Avant, ressources pédagogiques ont été recueillies par les systèmes de gestion d'apprentissage institutionnel et stockés localement. Ces ressources seront ensuite combinées pour former des paquets de cours qui seront présentés aux étudiants comme un cours en ligne. Mais après, les étudiants seront liés aux ressources ou qu'elles se produisent autour du web et de rendre ce lien disponible à l'autre étudiant. Ces ressources seraient considérées individuellement, sans ordre préétabli ou des organisations éducatives. Ça, c'est le modèle suivant en création des MOOC. Le MOOC a eu deux précédents, le Wiley Wiki et les cours ouverts. D'abord, le Wiki Wiley ou le Wiley Wiki a lancé l'idée d'un contenu en ligne ouvert qui a peut-être étudié, édité par les participants au cours. Il a été réalisé par David Wiley en 2007. Comme d'autres initiatives de cours Wiki, il a pu être édité par les participants. Les contributions sont acceptées à partir du web entier. Le premier MOOC a été offert par moi-même et George Simmons à l'Université du Manitoba en 2008. Initialement, nous avons prévu comme un petit cours sur connectivisme. 24 élèves sont inscrits pour le crédit. Lorsque le cours a été ouvert à quiconque était intéressé, cependant, nous avons vu un supplément de 2200 inscrits. Ce grand contingent d'étudiants a contribué à créer certaines des innovations qui ont fait le cours d'une MOOC, plutôt que simplement un cours en ligne grand. Voici un diagramme de notre première MOOC. Dans la partie supérieure gauche du diagramme, on peut voir le dernier vestige d'une structure de cours formel, la conception structurée d'un système de gestion de l'apprentissage, dans ce cas, une installation open source Moodle. Une autre structure carrée au milieu, en haut du diagramme, est le wiki, sur lequel la planification des sujets de cours a eu lieu. Le reste de la structure de la MOOC se compose de services distribués, reliés entre eux par l'agrégateur RSS. Une recherche Technorati sur la balise CCK08, une maisonneuse Bloglines, un PageFlick portal, des balises Flickr, Delicious et Twitter, un Google Group, un blog et le quotidien, le bulletin de cours.
Excusez-moi, Monsieur Dowse.
Oui, c'est le temps pour finir maintenant.
Oui, notre prochain atelier est dans 5 minutes. On va vous donner 2 minutes pour répondre à des questions s'il y en a dans la salle.
OK.
C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Il ne semble pas avoir de questions.
Si c'est possible, je voudrais conclure avec les leçons pour les entreprises petites et moyennes.
OK. Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Oui, je... rapidement. OK. D'abord, c'est nécessaire de faire attention à l'apprentissage. Le monde, c'est dans le processus de changement. Ce n'est pas seulement l'introduction de technologies, c'est aussi des changements globaux tels que le changement climatique, le libre-échange mondial et des gouvernements démocratiques émergents. Deuxième, le temps de cours traditionnels sont passés. Ces cours sont trop chers. Ils occupent trop longtemps. Ils sont trop distants. On doit embrasser l'apprentissage en ligne. Troisième, c'est nécessaire à considérer les nouvelles principales de pédagogie. J'ai énuméré deux des cas de ces, de passif à actif et de formel à l'informel. Quatrième, embrasser le régime des objets ouverts en ligne. Il y a une richesse de ressources d'apprentissage libre si on seulement cherche. Cinquième, considérer l'utilisation des médias sociaux pour partager les ressources d'apprentissage et pour engager la conversation à propos de ces ressources. Les réseaux sociaux sont des médias très convenants pour partager ces ressources et ils sont déjà utilisés par vos employés. Et sixième, l'apprentissage en ligne doit être fourni pas seulement par les employeurs, mais doit aussi fournir par les employés. Les grands MOOC tels que Stanford, AI et Coursera doivent créer les réseaux sociaux autour et doivent accueillir les ressources créées par les étudiants. En général, les employeurs dans les entreprises petites et moyennes devraient chercher pour communiquer en ligne à propos de leur sphère d'entreprise. Puisez dans ces communautés. Ce sont vos nouveaux environnements. Et c'est tout. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup, M. Dawes, pour cette information. C'est très apprécié d'avoir pris le temps de nous parler, même si vous ne pouviez pas vous présenter physiquement. Puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.
Merci. Vous aussi.